Les chroniques de la plume.
Salutations, je suis Buzz l'éclair et je viens en paix.
Chef Kidé,
il dit que s'il connaissait le con qui a fait sauter le pont.
Pourquoi ?
Hein ?
Pourquoi ?
Parce qu'on peut le faire !
Je ferai ça toute la journée.
Ouais, je sais, je suis au courant.
Hello there.
Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, en vadrouille, loin, très loin.
Pour certains, il est juste un bon Pixar parmi tant d'autres, mais pour d'autres, il est un magnifique souvenir d'enfance. Le film de John Lester, sorti en 1995 aux États-Unis, a récolté 384,4 millions pour un petit budget de 30 millions de dollars. Est-ce bien étonnant quand on voit la qualité du film, un scénario plutôt simple à la base, mais qui nous parle avec tellement de poésie. Car oui, ce film nous parle de sentiments d'abandon, d'intégration, d'acceptation de soi, et bien sûr de la sensation d'être remplacé par un être cher. Bonjour auditeurs, auditrices de RVM, c'est Melvin. Je suis accompagné cette fois encore de Pierre-Alexis et de Maximilien. Et aujourd'hui, bien évidemment, comme vous l'aurez sans doute reconnu, nous allons vous parler de Toy Story. Tout d'abord, ça parle de quoi ? D'un groupe de jouets dotés de conscience et de sentiments, appartenant à un enfant nommé Andy, Woody, un jouet représentant un shérif et étant le jouet préféré de Andy, représente le leader du groupe, l'autorité, et va devoir faire équipe avec Buzz l'éclair, le ranger de l'espace, pour survivre à plusieurs péripéties. Toy Story, qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous parle de Toy Story ? Qui veut commencer ?
Pour moi, ça m'évoque déjà tous les souvenirs d'enfance avec nos jouets, évidemment. Je pense qu'on a tous eu des jouets quand on était enfant, logique. Mmh. Et le fait qu'ils prennent vie, qu'ils ont une conscience, qu'il faut en prendre soin, il ne faut pas les abandonner, etc. Que quand on grandit, effectivement, on les laisse de côté ou on les donne à nos frères et sœurs. Et Toy Story, ça évoque un peu tout ça et ça évoque aussi l'amitié.
Mmh.
Donc du coup, voilà pour moi ce que ça évoque.
Puis le fait que son âme d'enfant est la représentation même d'un jouet, quoi. C'est l'âme d'enfant de son appartenant. Et toi, Maximilien ?
Bon, moi, ça m'évoque à peu près la même chose qu'à Pierre-Alexis. Mmh. Hein, c'est... Enfin, et puis je dirais même que moi, ça m'évoque le... Enfin, quand on joue, on a toujours l'impression que nos jouets ils sont un peu vivants. Et puis c'est un peu... le réalisateur, il a réalisé ce... C'est ce sentiment qu'on a tous.
Un peu un fantasme d'enfant.
Ouais, c'est ça, qui est universel. On y a tous déjà pensé.
Et puis,
en plus, ça accentue le truc, quoi, Toy Story.
Ah, bah oui, hein.
Ah, totalement. Ouais.
Et puis. Sorti de notre champ en disant, s'il te plaît, bouge.
C'est ça, hein, qui n'a jamais regardé ses jouets en pleine nuit en faisant semblant de dormir pour voir si le jouet il allait bouger.
Non, vraiment, ça évoque l'enfance et puis c'est assez doux. Puis encore plus maintenant, vu qu'on est quasiment adulte.
Ah, et puis maintenant, on a une autre vision, parce que le film, on dirait pas comme ça, mais il parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Je pense au premier, mais après ça, c'est un sujet qui revient beaucoup dans les Toy Story, je vais d'ailleurs en revenir, qui, vers le 4, commence à être un défaut, c'est que ça parle beaucoup du sentiment d'abandon. Mmh. Ça parle du fait d'être remplacé, le fait de pas être accepté, et c'est souvent ce même sujet qui revient aux 4 films, même si entre le 1 et le 3, je trouve qu'ils ont un peu rénové, la même idée, mais en innovant d'une autre facette, avec une nouvelle écriture. Il y a des films comme par exemple Toy Story 2, où en fait, la trame narrative et le film, il est quasiment à copier-coller du 1. C'est pour ça que j'en ai très très peu de souvenirs. Hein. Moi, les souvenirs que j'ai du 2, c'est ce qui le différencie du 1. Quoi. Donc ça va être Zurg, ça va être les nouveaux personnages comme Jessie et tout ça. Il y a le fait aussi qu'on a eu un film il n'y a pas longtemps, Buzz l'éclair, qui est un film qui se passe dans l'univers de Toy Story. Est-ce que vous l'avez vu personnellement ou pas du tout ?
Non, je ne l'ai pas vu. Là.
Moi, je ne l'ai pas encore vu. Non. On attend la sortie sur Disney+, et puis on le regardera tous. On va tous se streamer.
Pour tous ceux qui ne l'auront pas vu, il y en aura zéro spoil de ce film. J'en donnerai mon avis à un moment donné, mais bien sûr sans spoiler. Et pour vous, quel est le meilleur Toy Story parmi les 4 films, du coup, vu que vous n'avez pas vu Buzz l'éclair ?
Moi, je pense le plus marquant, je pense que c'est le 3, hein, avec l'école, qui a une... il a tout, hein. Franchement, tu te fais pas chier dessus.
Moi, j'ai eu peur à la fin. Je me suis dit, ils vont oser aller jusqu'au bout.
Ouais, bah oui. Surtout qu'ils ont pris de nouveaux horizons, quoi. Mmh. Parce que le 1 et le 2, bon, on est toujours chez Andy.
Ouais.
Voilà, il y a l'un des jouets, etc., qui se fait kidnapper ou qui disparaît, etc. Du coup, ils vont le chercher. Le 2 était bien sur le fait que, bah, tu vois, c'était un collectionneur de jouets. Rencontre avec, je sais plus comment ça s'appelle, la co-girl.
Ouais, Jessie.
Jessie, avec...
le poney, là.
Le poney, ouais.
Je sais plus comment il s'appelle.
Il y avait aussi le...
Pile-poil.
Pile-poil, voilà.
Pile-poil.
Il y avait aussi un troisième personnage. C'était un espèce de
mineur,
méchant. Hein. Ouais, le mineur qui était... Il est méchant, lui, non?
Oui.
Ouais, il est méchant.
Oui, le vieux, là, le papy grincheux. Là,
je sais plus comment il s'appelle non plus. Mais tout le délire de l'hôtel, etc., c'était quand même bien.
Ouais.
Le 3, Nouvelles Horizons. On s'écarte totalement d'Andy. Là, on est vraiment dans la dépendance, là.
Et puis, il y a une évolution de personnage pour chacun d'entre eux. Même les personnages secondaires ont un énorme développement de personnage. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Moi, je pense que ce qui m'aura le plus marqué dans The Toy Story 3, parce que je suis d'accord avec toi, Pierre-Alexis, je trouve aussi que c'est le meilleur et le plus mature. Même si on va beaucoup parler du 1, parce que forcément, c'est la base même de... Voilà, c'est le premier, forcément, ouais. On y est attaché. Mais le 3, je trouve quand même qu'il a l'un des meilleurs méchants de tout dessin animé. Lotzlo, je trouve qu'il est super bien écrit, il est super bien, parce qu'en plus, moi, je le regarde, je dis, il est pas si méchant que ça quand tu regardes bien au fond Lotzlo.
Non, bah non,
c'est un jouet cassé, quoi.
C'est ça, et c'est un jouet cassé.
Par la vie.
C'est ça, c'est magnifique ce que tu dis là.
C'est beau, hein.
C'est magnifique.
Et déception de Lotzlo.
Et ouais, bah c'est ça, Lotzlo, ça a été un jouet qui a été abandonné par sa propriétaire qui s'appelait Daisy, je crois, de souvenir.
Sûrement, oui.
Il a été oublié dans un parc, et en fait, quand il revient, il se rend compte que la petite fille, du coup, Daisy, l'avait remplacé, avait acheté un autre Lotzlo.
Ouais.
Et du coup, par peur de se faire abandonner par tous ses amis des jouets, il a dit à tous ses potes, ouais, bah on a tous été remplacés, on nous a tous laissé tomber, venez, on se casse, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et il a fait un système hiérarchique assez... un peu comme une secte, un peu dans la garderie, c'est lui le maître un peu vénéré, il y a des hiérarchies, chacun peut évoluer un peu comme bon lui semble, mais toujours sous sa dictature, tu vois.
Ah, c'est le big boss, hein.
C'est ça, ouais, c'est un peu la part. Moi, je voyais ça un peu comme
parrain.
La mafia.
C'est le parrain.
C'est le parrain,
c'est
ça. Ouais. C'est vrai.
Il a son trône, il y a tous ses subordonnés qui sont autour de lui. Ouais. Ouais, c'est...
Aussi, côté flippant dans le trône, c'est quand même le bac à sable.
Le bac à sable, ouais. Bah, il y avait toujours ce côté horreur un peu dans Toy Story. Je pense au premier, quand ils veulent battre Sid, ils lui font une peur, là. Tu les vois tous sortir d'un coup, ils viennent lui parler. Moi, cette scène-là, moi, personnellement, elle m'a pas traumatisé, mais je connais des personnes que ça avait choqué à l'époque de voir ça. Mais c'est...
Avec les jouets qui sont complètement cassés ou... espèce de Frankenstein en jouet
ça,
à cause
ouais.
de Sid. Bah, du coup, moi, je vais dire aussi mon film,
oui.
Mon film préféré, pour moi, c'est le plus important, ça reste quand même Toy Story 1. Parce que, tout simplement, les Toy Story 2, 3, 4, comme tu l'as dit au début, c'est un petit peu une réécriture, en fait. Ils prennent exactement le même sujet, sauf qu'ils l'écrivent d'une manière différente, avec où les péripéties arrivent à différents personnages, tout ça. Et le 1, tout simplement, déjà, parce que ça a été une révolution technique, hein, avec c'est le premier film totalement en animation 3D de l'histoire de l'humanité. C'est quand même quelque chose.
C'est déjà ça. Hein.
Première collaboration Pixar. Et puis c'est la première fois qu'on était ancré dans un univers avec des jouets comme ça. C'est quand même c'était vachement innovant. On n'avait jamais vu ce genre d'histoire en fin de compte.
Non.
Non du tout non. Et puis Toy Story, ça, comme tu dis, ça a évolutionné par son aspect technique. Et puis, il y avait cette tendance un peu Disney. À l'époque où il est sorti en 95, il y avait beaucoup de Disney. Il y avait Le Roi Lion, il y avait Mille et une Pattes. Il y avait beaucoup de dessins animés. Voilà. Est-ce que c'était Toy Story en fait, il est bien tombé. Il est tombé un peu à l'époque souvenir d'enfance de chacun d'entre nous.
Mmh, c'est ça.
Bah, je pense. Bah, surtout que les premiers à avoir connu ça, c'est... c'est peut-être pas nos parents, mais...
Non, je pense qu'on est les premiers vraiment. Enfin, on est cette génération Toy Story un petit peu.
Ouais, je pense, oui. Vu que sorti en 95, les personnes qui sont nées dans les années 2000.
C'est vrai que nous, on est pile. On peut carrément s'identifier à Andy, quoi. On a grandi un peu avec Andy, donc.
C'est ça.
Ouais, c'est vrai.
On a grandi en même temps que lui, donc on est pile le sujet du film, quoi. En fin de compte.
Puis il y a eu un petit pincement au cœur, hein, quand Andy donne ses jouets à la petite fille. Je sais plus du tout comment s'appelle la petite fille.
Je sais plus, qui est très gentille. Hein,
oui, Bonnie, je crois.
Bonnie, c'est
Bonnie.
Ça. Ouais, ouais.
Bonnie,
ouais.
Voilà.
C'est le placement de flambeau, quoi. En fait.
C'est ça, le placement de flambeau, nouvelle génération. Est-ce que vous y attendiez, vous, un Toy Story 4 en... Moi, je m'attendais à ce que le 3, sur la fin, c'était bah, la fin, quoi.
Il, y avait... il était bien, ouais.
Bah, moi, je pense que c'est ce qui était... c'est, ça a été... c'était prévu de base. Je pense que Toy Story 3, ce soit la fin. Mais bah, quand t'as un film qui fonctionne, forcément, ils essayent
de gratter
un petit peu. Et puis, bah, c'est pas trop mal. Enfin, Toy Story 4, c'est quand même... Pour moi, c'est certainement l'épisode le plus oubliable, je pense, pour moi.
Moi, je dirais que c'est le 2.
Je trouve que c'est celui qui m'a moins marqué, parce que, bah, après, peut-être c'est parce que bah, je suis grand, j'ai grandi, et j'ai plus les mêmes... bah, les mêmes choses m'affectent pas de la même façon, mais moi, je trouvais vraiment que la trilogie se complétait. C'était vraiment... Ils ont fait le tour de tout, du personnage d'Andy... vu qu'il était central, mais d'un côté c'est quand même bien d'avoir Bonnie, surtout pour la nouvelle audience, parce que bon, nous enfin, si on fait un film Toy Story avec des adultes qui jouent avec des jouets, ça va bizarre. Pas ouais, bah,
ça finirait en Chucky, je pense, hein, pour certains.
Ouais, c'est vrai,
ça risque d'être spécial. Donc ouais,
mais... de base d'ailleurs Woody devait être un peu ça, hein.
Ah ouais,
de base ça devait être une poupée de ventriloque.
D'accord.
Ils l'ont remplacé par un outil, enfin un jouet avec une ficelle qui tire, qui a des voix. Mais de base, il devait être méchant. Et donc, du coup, ils l'ont refait à la cow-boy gentil qui est loyal pour devenir le meilleur ami de Buzz.
D'accord. Ah bah, tu vois, bah, on en apprend tous les jours, merci.
Eh ouais, t'as vu.
Merci pour l'info.
C'est ça.
je serais moins bête ce soir.
Ouais, pour moi, je sais pas. Tu vois, je dirais que l'épisode le plus oubliable, pour moi, c'est le 2. Parce que dans le 4... j'ai beaucoup plus de souvenirs positifs. Le 2, pour moi, c'est vraiment un copier-coller du 1, mais un peu plus sombre, avec de nouveaux personnages.
Bah, moi, tu vois, le 2, c'est peut-être un petit peu le cas, mais je trouve qu'il y a des scènes qui m'ont vachement marqué dans le 2, notamment la scène où ils sont dans le centre commercial, avec tous les buzz, tout ça, ouais. Et puis... ils sont là, c'est quand même, je trouve que c'est tellement bien mis en scène. Et puis
c'est vrai que c'était beau, le Buzz qui avait pris conscience de ce qu'il était, qui doit expliquer un autre Buzz, donc lui d'avant, tu sais, ça avait un effet miroir.
Ouais, et puis en plus, enfin, comment c'est, enfin, c'est un vrai délire, hein. Cette scène-là, c'est on, enfin, moi, en étant petit, en la découvrant, j'ai trouvé ça exceptionnel parce que tu t'imagines pas qu'un centre commercial, ça peut faire une si bonne scène d'action, tout ça, quoi.
C'est ça.
Avec la voiture qui...
Ouais. Enfin, c'est comme la salle d'arcade.
La salle d'arcade, ouais. Dans Toy Story 1, la garderie dans Toy Story 3, où on a des personnages mis en danger, une fête foraine dans Toy Story 4. C'est vrai que les endroits sont insolites et pour le banal, quoi.
Puis en plus, ça permet de les redécouvrir, je crois. Vraiment, le centre commercial, moi, ça m'a marqué de voir tous ces objets-là qui paraissent immenses à côté des personnages qu'on suit, etc. C'est...
La première vision miniature, Ant-Man n'était pas le premier.
Ils n'ont rien inventé, Ant-Man.
Ils n'ont rien inventé. Merci Pixar Disney, merci.
Merci beaucoup.
Et bon, on en fait beaucoup d'éloges quand même, mais moi c'est un défaut qui m'est ressorti dans le 4, et en revisionnant un peu des extraits des anciens films, j'ai remarqué que c'est un défaut qui était là depuis le tout premier, c'est la discrétion des jouets. Faut qu'on en parle à un moment donné. Parce que les jouets, à zéro moment, ils sont discrets. Il y a des moments où je te jure, hein, mais tu... Juste, il y a la scène une des plus cultes du 1... quand t'as Buzz et Woody qui s'engueulent sous une voiture et t'as Woody qui gueule sa race. À quel moment t'as personne aux alentours qui entend quoi que ce soit?
C'est un film pour enfants. Ils ont pas... Enfin,
moi, le plus choquant, c'est...
imaginaire faire, quoi. C'est...
Je crois que ça avait été dans le 4, hein, où vraiment, je regardais dans le 4, ils étaient tous dans le camping-car en train de faire leur plan, sauter par la fenêtre, à faire des dingueries. J'étais en mode, mais wow.
Après, dans le premier, techniquement, leur discrétion, elle est limitée, parce que Sid, à un moment, je crois que vers la fin, il se rend compte que les jouets, ils sont vivants.
Bah oui, c'est comme ça, il traumatise Sid pour pouvoir se libérer.
Mais après, oui, c'est sûr que ils auraient peut-être pu refaire une autre scène où ils se font attraper par... Par des humains, quoi, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui leur arrive, c'est quand même
c'est
bizarre.
C'est ça, ils se baladent un peu comme ils veulent, quoi. Ils font tout ce qu'ils... Juste dans la 1, on se souvient de la fin dans la 1, Buzz, il arrive en volant avec Woody dans les mains, il s'arrête à la voiture d'Andy, hop, il tombe dans la voiture, dans le carton, Andy, il fait « Ah, cool, je les ai retrouvés
!» Après, c'est un enfant, quoi.
Ouais, bah oui, c'est un enfant, et puis quand tu perds un jouet, que tu le retrouves à un endroit un peu au hasard, comme ça.
Ouais, bah ouais, c'est ça. J'ai envie de lui dire, mais t'es bête, quoi, un peu.
Ouais, totalement.
Ouais, mais bon, écoute, c'est un film pour enfants. Je pense que, tu sais, À la limite, moi, ça me dérange pas trop parce que, bah, du coup, après, quand, quand on perdait un jouet et que tu le retrouves à un endroit.
C'est... Oh, après, je chipote, hein, bien sûr. Hein, oui, c'est chipoté.
Tu chipotes beaucoup trop là, j'aime pas ça.
Mais faut trouver tes points négatifs à tout point positif. Toi, tu dis, il n'est pas parfait.
Hein. Non, que... non, bien sûr que non.
Surtout que le 2 de base, il a failli ne pas être existant.
Ah ouais ?
Ouais.
Vas-y, raconte-nous l'histoire.
Très simple. Hein. Ils ont failli. Bah, ils l'ont fini le film. Sauf qu'il y a eu une erreur de code. Ce qui fait que...
Ah oui, j'en avais entendu parler.
Il a, normalement, vu l'erreur de code, ils auraient dû tout recommencer, perdre d'argent, etc. etc. Sauf qu'il y a l'un des développeurs...
Il l'avait stocké sur son ordinateur.
Ouais, il avait une sauvegarde à la maison. Grâce à lui, Toy Story 2 a existé. Donc la suite. Sinon, il n'y aurait pas eu de 3 ni de 4.
Je pense qu'on essaiera de trouver son adresse pour lui envoyer des lettres de remerciement.
Je crois que tout le studio Pixar... Il doit,
je pense que l'ordinateur est mis en valeur.
Il doit avoir un cadre, vraiment, c'est le Messi, quoi. C'est
le meilleur employé
de des prières.
C'est le Windows XP le plus respecté du monde.
C'est vraiment le meilleur backup plan, quoi. T'as besoin d'un backup, il est là.
Vous êtes toujours sur RVM 93.7, c'est l'émission La Chronique de la Plume, aujourd'hui on parle de Toy Story. Je suis toujours accompagné de Maximilien et de Pierre-Alexis. Nous avons débattu et échangé pendant un long moment sur ce que nous évoquait et ce qu'on ressentait sur Toy Story, nos avis, nos appréciations sur cette saga assez culte. Alors, on va un peu parler maintenant un peu plus en profondeur, enfin une petite critique un peu plus approfondie. Déjà, les premières qualités du film, je trouve, sont les doublages. Des doublages exceptionnels. Par exemple, nous avons le doublage de Buzz l'éclair fait par Richard Darbois.
Salutations, je suis Buzz l'éclair, mais je viens en paix.
Je pense que c'est plus culte que ça. Voilà, c'est ça. Hein.
Bien sûr.
Ensuite, nous avons Woody, interprété par Jean-Philippe Pied-Martin, pardon, excusez-moi la prononciation.
C'est moi qui suis le jouet préféré de Andy.
La caricature des personnages et de ce qu'ils représentent, comme Woody, le shérif western qui représente l'autorité, la raison et malheureusement aussi le passé.
Bien sûr.
Face à un Buzz Ranger de l'espace, plus moderne, plus technique, plus high-tech, plus cool, plus attractif pour Andy. Et c'est cet arrivage qui va être le point de départ des péripéties de Woody dans Toy Story, puisque les personnages principaux, on se limite à Woody, Buzz l'éclair. On va pas développer énormément les autres personnages secondaires, malgré que certains soient très cool, hein, comme Monsieur Patate, ouais, Rex, des personnages sympathiques. Rex, j'aime beaucoup.
Rex, le cochon aussi. Cool.
Le cochon, la tirelire, là.
Ouais,
il a des punchlines. Tu t'y attends pas, il t'attaque direct. Ouais. C'est un peu le Baffy de Toy Story.
Ouais, c'est un petit peu ça. Toujours la petite réplique cinglante qui fait plaisir. Par contre, pour revenir vite fait au doublage, c'est quand même en VO, Woody, c'est incarné par Tom Hanks.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est quand même, ils ont réussi pour le premier film à avoir un vrai cast audio quand même de grande qualité, quoi.
Parce que même à l'époque, Tom Hanks était à cette époque-là aussi un énorme acteur. Hein,
lui, donc, il avait déjà fait Forrest Gump.
Je sais pas quand est-ce qu'il date Forrest Gump, mais il doit être bien avant. 90, oui, bien avant. 90, oui.
Dire que la voix aussi de Buzz est jouée par Billy Crystal. De base, ça devait être la vraie voix de Buzz, sauf qu'il a refusé le rôle. Billy Crystal a refusé le rôle de Buzz, parce que pour lui, sans doute, ça n'allait pas marcher.
Ah non, je pense.
Mais du coup, il a été remplacé par Tim Allen, qui a fait la voix qu'on connaît en VO, je parle.
Oui, en VO. VO qui, on le dit, voix originale, dit VO.
Exactement. Et du coup, Billy Crystal, de premier choix, il a annoncé que c'était le plus gros regret de toute sa carrière.
Tu m'étonnes quand tu vois le succès de maintenant.
Quand même 4 épisodes, chacun c'est des succès au box-office.
C'est ça, 4 épisodes, un spin-off, on en parlera tout à l'heure, mais autre chose aussi. Donc, comme je le disais, Buzz, Ranger d'espace, plus cool, plus moderne et tout ça, sous la forme d'une autre autorité opposée à celle de Woody. Woody, ça va être un peu le shérif, donc c'est la seule autorité qu'il a. Que Buzz, lui, son système de justice et d'autorité, c'est un peu comme une société vraiment bien fondée et tout ça, bien futuriste et tout. La preuve, quand il arrive dans la chambre d'Andy, cette scène, je trouve, complète assez bien, dès le départ, l'opposition qu'il va y avoir claire et nette entre Woody et Buzz. Écoutez.
Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue.
Coucou. Quoi, je t'ai fait peur? Je l'ai pas fait exprès. Non, pardon, salut, cow-boy. Moi, c'est Woody. Et ça, c'est la chambre d'Andy. Voilà, les présentations sont faites. Et entre nous, il y a apparemment un malentendu. Tu es chez moi. Le lit, c'est mon territoire.
L'autorité locale, voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici, par erreur.
Oui, il y a erreur sur la comète, parce que ce lit est à moi. Tu es dans mon domaine.
Je dois réparer mes turbofusées. Vous marchez encore à l'ordinaire ou vous avez découvert la cristofusion?
Bah, on fonctionne aux piles alcalines.
Oh, attention. Ah, halt, qui va là?
Ne tirez pas, pitié, ami.
Connais-tu ces choses informes?
Oui. Ce sont les jouets d'Andy.
Bien reçu. Autorisation d'accès. Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix.
Donc à partir de là, il y aura une énorme rivalité qui va s'imposer entre Buzz et Woody pour, je dirais pas diriger un peu le groupe de jouets, mais c'est un peu la crainte qu'a Woody. Il a peur de se faire complètement remplacer dans son groupe d'amis, dans cette société qui s'est installée parmi les jouets.
Devenir le meilleur ami de Andy.
Et
quoi.
Voilà, comme l'a dit Pierre-Alexis et comme le dit aussi bien Woody.
C'est moi qui suis le jouet préféré de Andy.
Et c'est cette phrase-là, dès le départ, qui va engendrer tout cet enchaînement de haine qu'a Woody envers Buzz, qui n'est injustifié. C'est juste de la jalousie pure et dure. Et c'est là qu'on peut aussi voir les effets néfastes d'une personne qui va être jaloux, possessive envers une personne. Mmh. C'est qu'il va faire du mal à Buzz, il va quand même le pousser par la fenêtre. Ouais. C'est pas rien quand même comme message envoyé.
C'est sûr. Un petit peu violent, hein, Woody.
C'est, voilà, un petit peu... Faut pas le chercher, le gamin.
Ouais, exactement. Non, mais Woody, il a un petit peu cette peur aussi d'être, je pense, dans le passé, et puis d'être un jouet un peu désuet, quoi. Mm-hmm. C'est vrai que quand tu vois... C'est vrai que c'est une peur en général, ça, c'est de voir tout ce qui se passe autour de lui.
Évoluer.
J'allais y venir, ouais, justement. On va en parler un peu plus de ça.
Je vais te laisser en parler.
Merci. T'inquiète pas. Et il y a aussi... En fait, une intégration difficile de la part de Buzz qui, par le fait tout simplement qu'il n'a pas conscience d'être juste purement et simplement un jouet, comme le nous rappelle Woody.
Pourrait vous permettre à tous de survivre. Mais toi, mon ami, tu es sur le point de me faire rater mon rendez-vous avec Star Command.
Tu n'es qu'un jouet! Tu n'es pas le vrai Buzz l'éclair, tu es un pantin articulé! Tu n'es qu'un jouet en plastique!
Quel curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route!
Alors, on en parle de Buzz l'éclair qui lui dit « Tu fais pitié, mais d'une violence intergalactique venant tout droit de Star Command. »
Merci Richard Darbois.
Ah ouais, non, mais exceptionnel Richard Darbois. Si vous ne connaissez pas Richard Darbois, on va faire une petite parenthèse. Il est la voix française du génie dans le dessin animé Aladdin. Il a fait la voix d'un méchant dans Retour vers le futur, Biff, je crois qu'il s'appelle.
Ouais, Buffalo Biff, ouais. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai, mais c'est le nom. Il a fait aussi la voix d'énergie. Voilà, c'est la voix des publicités ça, d'énergie 12. Faut le souligner quand même. Mais c'est un grand monsieur qu'il a fait énormément de voix, bien sûr.
C'est un grand comédien de doublage.
C'est un très, très grand comédien de doublage. Et voilà, donc on parle de Buzz l'éclair qui a du mal à prendre conscience qu'il n'est qu'un jouet, qu'il n'est rien d'autre qu'un simple jouet de divertissement pour un enfant. Comme nous qui ne sommes que des simples hommes, au fond, en fait, je pense qu'il a du mal à se limiter à ce qu'il est et qu'il pense vraiment être quelqu'un d'au-dessus et d'exceptionnel. Et c'est ce qui va le frustrer au fur et à mesure du film, en fait. C'est la prise de conscience, petit à petit, de Buzz. Et Woody, voilà, qui le verra du coup comme un rival, qui voudra le mettre un peu hors course par rapport aux autres jouets qui sont fascinés par Buzz. Tout le monde est fasciné par Buzz. Même nous, petits, on était fascinés par
Buzz.
Bien
sûr, bien sûr.
Donc le cœur d'Andy, qui était la priorité absolue de Woody, sa peur d'être remplacé dans le cœur de tous ses proches, le pousse dans ses pires retranchements. En soi, qui peut lui jeter la pierre? Que sommes-nous prêts à faire pour garder notre place dans le cœur de ceux qu'on aime? Que un inconnu brise toute votre vie, vos relations avec vos amis, et tout ce que vous avez réussi à bâtir au fur et à mesure de votre vie, je pense que comme Woody, on aurait beaucoup de colère vers cette personne. Le film nous montre que Woody, à la fin, il nous dit qu'il a préféré voir les ressemblances plutôt que les différences, et Buzz, lui, aura eu sa famille. Dans le film, on a évoqué du coup cette peur d'abandon, ce fait d'être remplacé, mais il y a des sujets aussi tout à fait sérieux dans le premier film de Toy Story. Tout d'abord, on a cette opposition de société. Il y a plusieurs fractions de société qui ont été faites. Il y a la société faite par les jouets de Sid, donc le méchant, qui sont très torturé, un peu à la Saw, tu vois. C'est des jouets piégés dans une pièce et torturés. Pour moi, Sid, c'est Dixo. Il torture ses jouets, il prend plaisir.
Un futur psychopathe.
C'est ça. Bon, qui aura quand même compris la leçon. Hein,
voilà, on... bon,
oui.
Je pense que ça ira, ouais.
Et on a aussi, du coup, ouais, cette société, excusez-moi, je vais me répéter parce qu'il y a un extrait à vous faire écouter de cette société, fait par les petits aliens que l'on voit dans la salle d'arcade, qui est une scène qui aura marqué énormément de personnes pour son célèbre...
Le grappin est notre maître.
Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent.
Oh, c'est vraiment grotesque.
Voilà, donc ces petits aliens qui auront marqué pas mal de personnes d'entre nous. Et une petite scène qui, au premier visionnage, passe inaperçue vu le jeune âge qu'on avait. Pour l'avoir revue récemment, c'est une scène qui parle de dépression. C'est pour vous donner un peu l'image qui est faite dans cette scène. Je vais vous passer l'extrait et on va la décortiquer, je pense, tous ensemble après, parce qu'elle est vraiment, vraiment très intéressante.
Buzz, est-ce que ça va?
Fini! Devini! Fini tout est, bye bye you, adios.
Mais qu'est-ce qui te prend, voyons?
Un bon matin, on défend toute la galaxie. Et à 5 heures, voilà qu'on se retrouve à siroter du Darjeeling avec Marie-Antoinette et sa petite sœur.
Je crois que tu as bu assez de thé pour aujourd'hui. Et si on sortait prendre l'herbe?
Mais tu comprends pas? Tu vois pas mon chapeau? Je suis la reine d'Angleterre.
Redescends sur terre, Buzz.
Oh, je te demande pardon. Tu as raison, je dois faire une petite dépression, voilà tout. Je vais remonter la pente.
Je vous laisse commencer. Que pensez-vous de cette scène exactement, si on devait la décortiquer un petit peu? C'est, je trouve, super intéressant.
Bah, moi, je trouve qu'elle est, ouais, elle est drôle, surtout, cette scène-là. Puis, c'est vachement représentatif de ce qui se passe dans Toy Story. C'est que Toy Story, c'est avant tout un film pour enfants, mais il y a beaucoup de thématiques qu'on voit en étant adulte, qu'on arrive à comprendre, des sujets abordés qu'on passe complètement à côté en temps normal quand on est enfant, et puis là quand on est adulte tout de suite ça en parle.
Ouais, c'est ça, moi j'aime bien cette image
on en prend conscience, ouais.
Là, un moment où Woody et Buzz vont faire un peu la paix, enfin pas la paix mais une sorte de trait, puisque ils vont vraiment devenir amis, je pense, vers la fin du film, pas encore à ce moment précis, mais on voit qu'il y a un début d'amitié qui s'est formé. C'est un peu, tu sais, le pote qui va chercher son poteau au bar, qui est complètement red bourré parce qu'il a eu une journée pourrie, et qui va essayer de le ressaisir, dire relève-toi, ça y est, rebondis, c'est pas fini, sujet de dépression, et c'est dit ouvertement, Buzz dit je dois faire une petite dépression. Pour dire à quel point les jouets ont des sentiments forts, quoi. C'est vraiment comme des êtres.
Déjà, le simple fait que si Woody dit à Buzz que c'est un jouet, c'est que même Woody de base a conscience que c'est un jouet.
Mais pour Woody, on sait l'importance l'importance que c'est d'être un jouet. Il nous en parle dans Toy Story 4, justement, quand il doit expliquer à Fourchette. Nouveau jouet de Bonnie, doublé par Pierre Niney, qui est, à mes yeux, le seul point positif de ce nouveau personnage. C'est que je trouve que Pierre Niney fait un excellent doublage. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais après, le personnage de Fourchette, j'ai un peu de mal. Il faudra que je revisionne peut-être le film pour me réconcilier avec ce personnage qui est un peu compliqué. Mais pour en revenir au sujet que je disais, c'est que oui, l'importance pour Woody d'être un jouet est expliquée dans ce film. Écoutez.
Pourquoi je dois être un jouet?
Parce que tu as le nom de Bonnie marqué sur tes bâtonnets.
Pourquoi j'ai le nom de Bonnie marqué sur mes bâtonnets?
Parce que elle...
Écoute, elle passe son temps à jouer avec toi, on est d'accord?
Ouais. Et qui elle tient dans ses bras toutes les nuits?
Le gros sac moelleux blanc?
Mais non, pas l'oreiller. Toi! Ok, il faut que tu prennes conscience de la chance incroyable que tu as. Tu es le jouet de Bonnie. Grâce à toi, elle va connaître de véritables moments de bonheur dont elle se souviendra toute sa vie.
Hein? Quoi?
Donc, à part le fait que cette scène est assez drôle, à mes yeux, c'est, comme le dit Woody, c'est un souvenir qu'elle se rappellera toute sa vie. Et pour moi, Toy Story, c'est ça. C'est un souvenir qu'on se rappellera toute notre vie, parce qu'ils nous auront marqué.
Je pense, oui. Sur tous les jouets. Hein.
C'est ça.
Je trouve qu'elle est vachement touchante. Woody, comment il en parle, on voit vraiment que dans ce film-là, ça lui manque, quoi.
Oui.
C'est vraiment. C'est Bonnie. Enfin, il en vit limite un peu Fourchette.
Je pense que, Fourchette, il a une certaine innocence pure et dure d'un enfant. Et c'est la première fois qu'on va voir Woody en tant que mentor, vraiment. Pas en tant que père, mais en tant que mentor, vraiment, je pense, en tant que grand frère de Fourchette. Et comme je dis, il y a de très bonnes idées dans Toy Story 4, je vais pour les citer. Le développement de Woody est excellent dans ce film. Je trouve qu'on a un développement de personnage super intéressant. On a une vraie évolution à la fin du film. On ne termine pas le film comme on l'a commencé. Et ça, ça fait du bien pour certains films où ça se termine comme ça commence et qui ne servent à rien. On a Ducky et Bunny, doublés par Jamel Debbouze et Frank Castambi. Pardon, j'ai du mal à prononcer son nom de famille, qui sont des personnages, je pense, rajoutés pour le fanservice, pour avoir Jamel et Franck. Enfin, mais,
je pense pas que Disney a juste rajouté des rôles.
Non, mais non, je me suis mal exprimé. Ben, ils ont fait venir Jamel et Franck vraiment pour attirer du public et de l'audience.
Oui, c'est pour avoir.
Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire.
Tu le mets sur l'affiche, Franck Gastambi.
Ils étaient Jamel sur l'affiche.
Hein. Oui, ça marche bien.
Et puis, c'était des personnages intéressants en plus. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Hein,
Oui, c'est de mon personnage. Ouais.
Pour résumer un peu Toy Story 4, il y a un extrait, je trouve, qui résume parfaitement tout ce qu'on pourrait dire de ce film. Écoutons.
Et toi, dis-moi, ton nouvel enfant.
Bonnie ? Oh, elle est extra. Jessie l'adore.
Jessie est toujours avec vous ?
Oh oui, toute la bande est au complet. Enfin, je veux dire, presque au complet.
Ah donc, il y a toujours Rex ?
Ouais, ouais, Rex, Pile-Poil, Zigzag, Monsieur et Madame Patate.
Buzz ?
Ouais, ouais, Buzz aussi. Ah, parce que j'ai hâte de voir sa tête quand je vais lui dire que j'ai retrouvé
Beau. Buzz, mon vieux compagnon de route. Que ça fait plaisir de
Woody,
te revoir.
C'est la bergère. Mais qu'est-ce que tu fais ici ?
Trois ans
minimum.
Compendu comme des jambons à attendre un enfant.
Et j'en suis sincère, mon ami.
T'as tout gâché. T'es un gâcheur de vie.
Qui c'est, cela?
Il nous a promis un enfant. T'as fait quoi?
Je n'ai jamais fait ça.
Alors, tu nous as promis un enfant. Moi, il me tue de rire. H24, matin, midi, soir. Je n'en peux plus.
Effectivement.
Donc voilà, cet extrait-là, j'aime beaucoup parce que bah, on a les retrouvailles entre la bergère et Woody. On a explication dans le film de ce qui est arrivé à la bergère pour qu'on ne la voit plus dans le 3. Mais Pierre-Alexis, tu m'as expliqué tout à l'heure hors antenne pourquoi la bergère n'était pas présente dans le 3 et ça a un lien avec le personnage de Barbie.
Effectivement, normalement, Barbie devait remplacer la bergère. De base, la bergère
devait être Barbie dans le premier film.
Exactement. La bergère, normalement, c'est un personnage qui a été créé bah, justement pour le film parce que le créateur de Barbie n'a pas voulu. Mmh. Voilà, donc il n'avait pas les droits. Il fallait bien remplacer, donc ça a donné le personnage à la bergère. C'est pour ça que d'ailleurs, on voit Barbie et Ken dans le 3 parce que bah, justement, bah, je pense que le créateur a changé l'idée.
Avec le succès, les millions de dollars,
le box office.
Ouais, là, ouais. Ça change.
Et puis pour revenir à la bergère, effectivement, ça rejoint le fait que. Effectivement, bah, on parlait de la dépression et différents aspects. Il y a aussi l'amour. Hein.
L'amour que Woody a pour la bergère.
Et qui est aussi bergère, Woody. Hein, c'est un vrai amour.
Je trouve que ça se voit moins. C'est plus discret.
Bah, non.
Je trouve l'amour de la bergère pour Woody.
Elle a toujours pris soin de lui.
Oui, oui, beaucoup. Et puis on se rappelle dans la fin du 1 ou du 2, je ne sais plus, où elle le prend, elle l'embrasse.
Bien sûr.
Mais Woody, on le voit, il est en mode gaga, un peu en mode oh, il est déstabilisé et tout ça. Que la bergère, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus subtil et
c'est
mieux
plus subtil.
Voilà,
c'est plus subtil. Surtout quand elle dit que ces moutons détournaient le regard, je voudrais un peu plus de temps avec Woody.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et puis ça casse bien l'image de Woody en soi, parce que Woody, c'est censé être le cowboy un petit peu. Enfin, si on prend les films de western, tout ça, un petit peu Clint Eastwood, quoi.
C'est ça.
Aucune sensibilité, vraiment un homme dur. Et puis au final, une petite bergère lui fait un bisou sur la joue.
Là, il y a le cachot.
Il a chaud. Il bat la chamade.
C'est ça, hein.
Ouais, non, mais je trouve que c'est très bien pour le personnage. Ça le déconstruit complètement. Quoi.
Et oui, et c'est pour ça que dans le 4, je trouve que son évolution est bien. C'est que ça a été. Je trouve que ça a été une bonne idée de faire revenir la bergère pour développer Woody. Puisque il va avoir cette émancipation d'appartenance qui le hante et qui lui dicte sa vie depuis pas mal d'années maintenant. Il a toujours vécu à travers Andy dans le 1, le 2, le 3. Là, on voit qu'il vit à travers Bonnie et il est. Peut-être une certaine lassitude un peu à tout ça, de toujours dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Et quand il voit la liberté de la bergère, à quel point elle est heureuse, et puis comme nous l'a rappelé Pierre, il en est amoureux, il en est fou amoureux.
Bien sûr.
Et je pense qu'il a décidé de dicter peut-être son cœur et plus ses valeurs.
Ouais, c'est sûr. Bah, surtout que de base, dans le premier, Woody, c'est qu'il faut se rappeler, hein. C'est comme un shérif très strict, hein, qui n'a pas du mal à punir les jouets qui respectent pas son autorité. Hein. Ça, il faut quand même se rappeler que...
Moi, je me souviens du groupe de soldats militaires en vert et tout, qui faisait respecter un peu la loi avec Woody, ouais. Où c'est Woody qui était ça, hein. Le chef d'État qui les dictait, ouais, allez faire ça, allez espionner tel... Hein.
Exactement.
Je me rappelle dans le premier, le quand il voulait rassurer, mais t'es sûr qu'ils vont en être capables ? Ces gars sont des professionnels.
Non, mais dans le cadre, peut-être aussi, il y a une petite volonté d'émancipation, parce que Woody, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il a toujours vécu pour ses propriétaires, quoi. Mm. C'était faire le bonheur d'Andy, faire le bonheur de Bonnie, et puis peut-être que maintenant, il a envie de faire son propre bonheur, et c'est en soi une thématique quand même assez... Ouais, encore une fois, c'est assez adulte.
Bah puis, ouais. C'est l'enfant adulte, qui se sépare de ses parents.
Moi, je verrais peut-être pas ça comme ça. Je verrais aussi peut-être un côté, peut-être un petit peu amour toxique, tu vois.
Ah ouais.
Dans le sens, là, c'est amour platonique. Enfin, c'est de l'amour limite fraternel avec Andy. Il veut en prendre soin, quoi. Mais c'est essayer de vivre pour soi avant d'essayer de vivre pour les autres et se
rendre heureux, tu veux dire.
Etc.
D'accord.
Donc, c'est vraiment des thématiques que dans lesquelles je pense n'importe qui. À partir d'un certain âge, peut s'identifier.
Moi,
quoi.
Tu vois, j'avais une autre vision de ça, mais j'aime beaucoup ta vision de ça. Moi, je voyais plutôt son développement comme l'enfant, tu vois, qui a sa copine, qui veut faire sa vie avec sa copine et qui veut s'émanciper de ses parents. Et ouais, Bonnie et Andy représentaient un peu ces parents-là, quoi.
Après, j'abuse peut-être un petit peu avec le truc amour toxique, tout ça, mais ce que je vois,
toxique,
c'est...
Toxique, oui,
c'est
mais je vois ce que tu veux dire.
Ouais,
c'est des mots forts, mais je vois ce que tu veux dire.
Exactement, c'est vraiment... Je pense qu'il a... Ouais, il a juste envie de vivre un petit peu pour lui, et puis en voyant la bergère...
Être un peu plus égoïste, tout simplement. Il n'y a pas de mal à être égoïste dans la vie.
Il voit qu'avec Bonnie, c'est peut-être pas possible, il peut pas être son jouet préféré, En fait, Woody, il vit beaucoup dans le passé, et même dans le Toy Story 3, en fin de compte, puisqu'il cherche toujours à être le jouet préféré de Bonnie, comme il l'a été d'Andy. Sauf que Andy n'est plus là, donc ça sert à rien d'essayer de rechercher un Andy en Bonnie. Et peut-être que c'est juste mieux de
c'est
de
ça. Prendre... Par contre, tu t'es trompé, tu as dit 3, c'est le 4. Où il cherche à...
Ah oui, c'est le 4, effectivement.
Voilà, une petite erreur rattrapée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre-Alexis ? Quelle est ta vision de l'évolution du personnage de Woody dans le 4 ?
Dans le 4... En soi, c'est quand même un personnage qui, voilà, Andy a toujours été son premier maître. Mm. Donc, effectivement, il était le meilleur jouet, avec Buzz, à la fin. Mm-hmm. Ensuite, Bonnie l'a eu, parce qu'Andy lui a donné ses jouets. Et, effectivement, il a toujours voulu devenir le maître, aussi, de Bonnie. Mais, finalement, Bonnie, elle avait déjà ses jouets à elle. Mm. Ce qui fait que il a toujours pensé à en vue de ça, je pense qu'il a pensé un peu à lui.
Je pense qu'il avait le mal du pays chez Bonnie.
Ouais, le mal du pays. Ouais.
Non, mais c'est une façon de voir les choses, c'est une expression. Mais tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Bah, c'est sûr qu'il faut se dire que je sais pas, je me mets à sa place. T'as ton premier maître, enfin
propriétaire. Ouais,
le premier propriétaire. Il te donne à un autre et qui est totalement dans un
t'as
autre.
Tout le même rôle. Ouais.
Ouais.
Même si c'est quelqu'un bien, hein, Bonnie.
Elle a tourné, quoi.
Mais... oui, c'est ça. Mais après, voilà.
Ça convenait plus à Woody, je pense.
Exactement. Surtout que c'est quand même un jouet de garçon, si on pourrait dire. Woody.
Ce que je trouve assez drôle là, c'est que par rapport à ce qu'a dit Pierre-Alexis, ça m'a fait un petit peu réfléchir, c'est que dans le Toy Story 1, Woody a peur d'être le jouet du passé et a peur absolument de Buzz l'éclair parce qu'il est le jouet moderne tout ça. Et puis au final, Bonnie, son jouet préféré. C'est encore un jouet moins moderne que Buzz et moins moderne
ouais,
que
c'est vrai, c'est vrai, c'est Fourchette.
Woody, c'est Fourchette qui est quoi de
Fourchette qui a été créé, je crois, à la cantine, je sais plus
pas la cantine, non, en maternelle. Elle a été à l'école en maternelle et en fait, elle s'ennuyait, elle voulait jouer avec un jouet, sauf que à l'école interdit de ramener ses jouets. Du coup, elle en a fabriqué un pour pouvoir supporter la maternelle et tout ça. Et c'était une façon pour elle de ne pas rester seule dans l'école, quoi.
Passer le temps.
Ah, voilà, c'est quand même c'est sympa de déconstruire encore une fois tout ce que tu as vu dans Toy Story 1. Et puis, ça prouve que Woody, il faut qu'il se remette encore plus en question et qu'il est dans le faux, quoi.
Après, comme on le disait, Toy Story 4 est un bon film. Il est peut-être le moins bon de la saga, mais ça reste un très très bon film.
Après, il est peut-être aussi le moins bon parce que les trois sont venus avant et que forcément, quand on a trois qui sont... qui sont aussi bons, dès que t'as une légère baisse un petit peu.
On parle beaucoup de Woody, mais parlons un peu de Buzz aussi, qui a eu une petite évolution, c'est qu'on voit que Buzz l'éclair, sans Woody, il est un peu perdu dans Toy Story 4.
Woody avait raison. Nous aurions dû l'aider à surveiller l'ustensile.
Pourquoi Woody est pas encore là?
Oh, vous croyez qu'il est perdu?
Buzz, que fait-on?
Que fait-on, Buzz? Buzz, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Buzz, j'ai... Buzz, qu'est-ce qu'on fait? Eh, Buzz!
Il ferait quoi, Woody?
Ah, ils sont traînés un véhicule en marche.
Oui, il ferait quoi, Woody?
Il y a une mission secrète aux confins de l'espace. Courez!
Je crois que, il faut que je cours.
Où ça? Courir? Mais pourquoi?
On va tous courir?
Et puis après?
Pas le temps d'expliquer. À l'attaque!
Pas le temps d'expliquer.
Oh non!
Franchement, qu'est-ce qu'ils ont tous à sauter par la fenêtre?
Donc voilà, on voit que Buzz dépend aussi un peu de Woody et que tout le groupe dépend de Woody. Et ça, c'était la crainte de Woody dans Toy Story 1, c'était de plus avoir cette importance au sein de groupe. Et quand on voit que la première fois qu'il s'émancipe du groupe, bah, le groupe est complètement perdu en fait.
La situation, elle est complètement inversée. Ouais. Et puis ça bouscule totalement la dynamique de la relation avec Buzz, enfin avec toute la communauté de jouets. Quoi.
Parce que Buzz, il a encore des séquelles de Toy Story 3 en vrai. On le voit dans le 4. Vous rappelez-vous quand il parlait espagnol et tout dans le 3 où il a été déréglé par l'Otso.
C'est vrai.
Non,
ça.
Mais il a eu un lavage de cerveau, un peu comme un militaire va dans un camp, dans un pays ennemi et se fait capturer.
Torturé, oui, la torture. Ouais, ouais, c'est il a eu des crimes de guerre sur.
Je pense qu'il a un syndrome un peu.
Il est en guerre maintenant.
Non, mais moi, dans Toy Story 4, je voyais un Buzz l'éclair qui sortait d'un peu un post-traumatique, tu vois, il a été c'est un peu ça fait un peu peut-être trop beaucoup de dire ça, mais moi je le voyais vraiment avec des séquelles psychologiques où il s'en est pas vraiment complètement remis du 3.
C'est plus le même, ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve sympa pour revenir au Toy Story 4, c'est vraiment tu vois que ils ont essayé de faire de fermer la boucle. C'est ils reprennent le 1 et puis ils changent totalement les protagonistes, c'est-à-dire que le rôle de Woody maintenant c'est un petit peu le rôle de Buzz. Hein, c'est Woody qui est perdu cette fois, tout ça quoi.
Exactement.
C'est vraiment super.
Comme quoi, le 1, le 2, le 3, le 4, peu importe quel est votre Toy Story préféré, on sera tous d'accord pour dire que cette saga est cultissime et est extraordinaire.
Ouais. Et surtout, elle est très, très homogène. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas spécialement un qui est vraiment moins bon que les autres. Comme on le dit, nous, le 4, je pense que moi, le 4, je l'aime juste moins parce que c'est pas celui que j'ai eu pendant mon enfance, parce que n'importe lequel, tu passes un bon moment dessus, quoi.
Ah, moi, par contre, oui, j'ai jamais passé un mauvais moment devant Toy Story.
Donc, c'est sûr. Je pense que c'est un petit peu...
Et puis, moi, ce que j'aime bien avec Toy Story, petit plaisir coupable, et référence à l'émission précédente que vous avez écoutée, cher auditeur, auditrice de RVM, que dans Toy Story 2, on a une énorme référence à Star Wars.
Rends-toi, Buzz l'éclair. Tu es vaincu.
Jamais je ne me rendrai. Vous avez tué mon père.
Non, Buzz. Je suis ton père.
Moi, ça me tue parce que tout le monde s'est dit « Putain, mais c'est, du coup, c'est son père ou quoi ?» Mais non, c'est juste une référence.
Très belle référence. Bah, après, je pense que si tu regardes juste Toy Story, oui, tu te dis que c'est son père. Mais après, voilà, avec Buzz l'éclair...
Mais je pense que voilà, la scène, elle est... tellement culte en Star Wars que la référence, même quand t'es jeune, je pense que tu peux...
Puis Disney, ça se voit que depuis quand même... du coup, le Toy Story 2, c'est quelle année?
Toy Story 2
Début des années 2000, ça doit être 2002, 2003 ou un truc comme ça.
Ouais, peut-être même 2004. Hein.
Ouais, peut-être. On voit que déjà Disney, ils avaient... Regardez les petites références Star Wars.
C'est ça.
Nous, on aimerait bien de l'avoir.
C'est
ils l'ont racheté peut-être 10 ans après, mais ils y sont arrivés. Hein.
Ah, ils l'ont racheté en même temps que Marvel, quasiment.
Ouais.
Ça a été fait.
Très belle référence.
Donc, la saga de Toy Story ne perd pas cette maturité en elle. Elle a cette qualité, malgré un quatrième opus que je trouvais assez moyen. Mais. Voilà, comme on l'expliquait tout à l'heure, avec ce sentiment un peu de recyclage, avec ces thèmes de l'abandon, de remplacement et tout ça, de toutes ces thématiques. Mais je trouve qu'on doit, voilà, on en a parlé tout à l'heure, le troisième opus qui sublime la saga, le plus mature, avec de vraies thématiques, comme l'abandon retravaillé à chaque fois de manière innovante. La mort a été évoquée dans Toy Story 3 quand ils sont tous pas loin de se faire cramer, ils sont tous ensemble, ils tiennent la main. Et ils sont là en mode c'est la fin pour nous et tout.
Ils sont prêts à partir tous ensemble.
C'est ça, quoi. C'est beau. Cette scène est magnifique. Beau.
Elle est très touchante. Hein,
Sauvée encore par le grappin plus gros.
C'est ça,
cette fois-ci.
Référence au premier Toy Story. Hein. C'est incroyable. Hein.
Oui.
Mais vous imaginez même pas la richesse de cette saga. Mais auditeurs, auditrices de RVM, c'est. Voilà, on c'est en parle très vraiment avec passion. Vous vous dites, ouais, c'est un dessin animé pour enfants. Mais comme on en parle depuis maintenant. Un petit moment quand même, un bon 45 minutes. Ça fait, y a beaucoup de thèmes adultes évoqués, et puis quand on le regarde adulte, on a une autre vision de ce dessin animé qui nous replonge non seulement en enfance, mais qui nous font grandir aussi. On y voit de belles références, on y voit une saga construite intelligemment, on peut dire, assez intelligemment.
Bien sûr.
Non, c'est un vrai tour de force en plus, que même en étant adulte, t'apprécies autant que quand t'es enfant à le regarder.
Exactement.
C'est, moi je me rappelle les voir tout le temps avec mes parents. Mes parents, ils passaient un super moment devant, parce que ça rappelle tant de choses au niveau de son enfance, de... En plus, ouais, encore une fois, des thématiques. Les thématiques qui sont abordées, elles sont vraiment sérieuses, adultes, ça te fait réfléchir, ça te... Tu t'identifies un peu à l'histoire alors que c'est que des jouets.
C'est ça.
Et c'est quand même l'insigne d'une bonne saga.
Et n'oublions pas le film Buzz l'éclair sorti en 2022 qui a été une vraie réussite scénaristique et visuelle à mes yeux. Un film se passant dans un film. Et moi j'ai trouvé le spin-off super intelligent et super bien. Le film visuellement, voilà, comme je l'ai dit, est super bien. Moi j'ai adoré ce film-là. Regardez-le. Vraiment, je vous le conseille, car il vous aidera à attendre un cinquième opus de Toy Story confirmé pour prochainement, donc dans quelques années. Je ne sais pas si la production ou l'écriture a commencé. Nous n'avons pas d'infos à l'heure où je vous parle, auditeur ou auditrice, mais un cinquième opus est officialisé par Disney, bien sûr. Donc, à bientôt dans les salles de cinéma pour découvrir cela quand il sortira. Et pour terminer, du coup, cette émission, auditeur ou auditrice de RVM, Toy Story, c'est une saga donc, qui aura émerveillé ou même parfois horrifié les plus jeunes d'entre nous. Car oui, Toy Story en a effrayé quelques-uns, j'en connais. Et cela est et restera une saga rattachée à mon enfance et à ses meilleurs souvenirs. Et je pense que pour vous aussi.
Ouais, aux meilleurs souvenirs de toute une génération, hein, de toute façon.
La musique, tout simplement.
La musique aussi, oui, qui est culte.
Il y a beaucoup de gens qui ont voulu avoir un Woody après Toy Story, un même Buzz. Hein. Moi, j'ai rêvé d'avoir un Buzz quand j'étais petit. Hein. Oh là là, déjà, c'est la pétition. Hein.
Donc, rendez-vous chez Pierre-Alexis dans 10 minutes après l'émission, hors antenne, bien sûr.
Ouais, moi, je vais aller chez Pierre-Alexis, lui voler ses petits jouets. Quoi.
Alors,
Woody veut s'échapper.
Ils vont te taper.
Hein. Non, il veut venir avec moi.
C'est malheureusement on va manquer de temps, va falloir qu'on mette fin à l'émission. Merci de votre écoute, auditeurs auditrices de RVM, merci de votre fidélité, et nous vous laissons du coup sur cette phrase culte de Toy Story qui résumera notre passion. Je pense que c'est une bonne idée de finir là-dessus. Je vous laisse, au revoir et à bientôt. Les chroniques de la plume.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Le roi des pirates, ce sera moi!
Pourquoi cet air si sérieux?
Poupi 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 pou. Poupi 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 pou. Poupi 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 pou.